Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, j'ai sous les yeux, on va laisser un peu les loups se débrouiller tout seuls, et j'ai un livre de Gilles Rais, Dordogne Blues. Alors, avec une très belle couverture d'ailleurs, avec un petit garçon sur un esquif avec une rame. Bon, je ne fais pas trop en sécurité, mais enfin bon. Voilà, alors, Gilles Rais, bon, il a eu plusieurs vies. Il a été commerçant en tisane, en produits bio, animateur à Radio Périgord, journaliste à Aki TV, Sud-Ouest et Canal+, auteur-réalisateur, initié tout petit à la rivière, par sa grand-mère, quand il l'accompagnait, il avait le linge, il a fini par tomber dedans, et écrire son lien profond avec la Dordogne. Alors, Dordogne Blues, donc c'est le titre de ce livre, c'est d'abord la rivière, elle s'écoule sans cesse, dessine un paysage à la fois semblable et changeant, étroitement lié à ce que nous vivons. C'est aussi la vie d'Angèle Balettine et de l'union improbable d'un fils d'émigré italien et d'une fille du pays. Élevé par ses grands-parents et sa racine dans ce territoire, pays d'eau et de lumière, où se pratiquaient naturellement des rites de passage dictés par la nature et non par l'école ou la religion. C'est là qu'Angèle apprend à nager, à aimer, à conduire et à guider seul un bateau, à pêcher, mais aussi à penser. Ce pays au contour rude n'échappe pas aux essais de domestication, qu'ils soient industriels ou touristiques. Face à eux, des opposants défendent farouchement ce bien commun. C'est un autre monde qui surgit où la Dordogne coule encore pour longtemps. Alors il y a un avertissement au lecteur que je vais vous donner. Ce voyage au pays de la rivière Dordogne s'accomplit à travers des lieux réels et d'autres qui ne sont pas. Le territoire où Angèle a grandi est un pays imaginaire, une commune fictive, un canton qui n'existe pas. Ce territoire apportera une réalité concrète, une rivière qui le traverse, des gens qui se parlent et d'autres qui s'ignorent. Chacun d'entre nous trimballe ainsi son propre monde, peuplé d'êtres de chair et de sang, mais aussi de fantômes, dessinant cet espace étrange où il est possible de réécrire son histoire. Les êtres croisés et aimés y apparaissent parfois sous d'autres noms. Ils sont reconnus par la grande famille qui nous a mis au monde. Les amis, des amis, des amis, les voisins, les voisines évidemment, et ceux que l'on a perdu de vue ressemblent finalement pas mal ce monde. Garojac et Saint-Cyr, la rivière n'existe pas, mais beaucoup sauront reconnaître les contours, d'autant que ces espaces sont bordés par d'autres lieux bien nommés que l'on peut facilement trouver sur une carte et visiter. Il en est de même pour certains moments relatés dans Dordogne Blues. L'auteur a emprunté de ci de là quelques faits marquants de la politique locale et les intégrés dans son récit, sans souci de la chronologie, parce qu'ils étaient remarquables, cocasses ou qui servaient l'histoire. Voilà, alors on va continuer un peu. Alors, je pense que l'histoire se passe entre Vérignac et Sénac. Voilà. Alors, il y a bien sûr mai 68, et le jeune garçon, mais il se trouve chez des frères à Sarlat. Alors, il y a le grand ponte qui va leur poser la question. Tu ne veux pas travailler? Tu veux faire grève? Oui, monsieur, viré. Et toi, tu veux rentrer en classe? Non. Viré. Et toi? Non. Viré. Et continuant ainsi, il reçut une bonne dizaine de réponses négatives qui se traduisirent immédiatement par autant d'expulsions. Logiquement, il finirait par trouver quelqu'un qui répondrait oui à la question et le ferait basculer la majorité de son côté. On sentait bien au fur et à mesure de sa progression qu'il doutait du succès de sa méthode et décida alors de changer de stratégie. Que ceux qui veulent travailler lèvent la main. Et il attendit. Quelques-unes se levèrent immédiatement, c'était prévisible, et au fur et à mesure que son regard balayait la foule des élèves de plus en plus grands vers les plus petits, les mains se dressèrent, certains plus hésitantes que d'autres, son regard se posant enfin sur Angèle, tout au bout du demi-cercle formé par les élèves récalcitrants. Après lui, il n'y avait plus personne, il était le dernier, c'était bien lui qu'il regardait, il n'avait pas encore levé la main. Et ne levait pas. Ce matin-là, la sensation de rejet qu'il éprouvait face à la vague de soumission qui déferlait et qu'il éprouvait face à la vague qui, sur ses camarades, pardon, le clouait sur place. Il était incapable de bouger, il sentait qu'il tenait là un bout de sa liberté, une chance de ne pas sombrer, qu'aurait bien pour ne pas noyer dans la molle dictature d'un consentement imposé. Il détestait ce collège, cette cour de récréation, cette vie imposée, et la liberté qu'il entrevoyait sur la rivière à lui procurer d'autres rêves que ceux de la réussite scolaire et d'un effort collectif. Alors il ne bougea pas. Et toi, tu ne veux pas travailler, tu veux faire grève à ton âge. Angèle était pétrie de peur, mais il ne levait pas la main. Le directeur insista pour toi, alors tu veux travailler, oui ou non? En regardant par terre, Angèle remua la tête de gauche à droite. C'était clairement non. Dans ce temps, il suivait des yeux une colonie de fourmis qui démarrait sa journée au pied du vieux marronnier situé à gauche, sémaphore de la foule maîtrisée qu'il rendait bientôt derrière ses pupitres. Alors dégage, va rejoindre les autres, crois-moi, tu vas le regretter. Voilà, alors donc Angèle va se diriger, bien sûr, vers les récalcitrants. Alors, cette matinée un peu folle affichait une détermination un peu arrogante et lui souriait, étonné par son jeune âge et par ce qu'il devait prendre pour un courage insensé, alors que ce n'était qu'un réflexe de survie. Il était convaincu qu'il en avait assez vu et assez souffert de cette promiscuité, de cette discipline archaïque, de cet éloge du travail et du sacrifice, et surtout des mensonges permanents qui allaient avec. Alors on va continuer un peu cette lecture. Bon, il est toujours chez les frères, en quelque sorte. Alors l'année qui suivit l'incendie de mai prit des couleurs éclatantes. Angèle avait souvent entendu Armand parler avec enthousiasme de la fouisse. Elle lui semblait un brin périlleuse et surtout très aventureuse au soir d'été où il vint le voir, espérant l'accompagner au bord de l'eau pour poser quelques nasses. Armand lui dit, tu crois que ta grand-mère te laissera partir avec moi cette nuit? Alors Armand, bien sûr, c'est l'instituteur qui est à la retraite et bien sûr des liens amicaux, les réunira autour de l'eau. Angèle lui assura que oui, il suffisait qu'il vienne le chercher et qu'il était sûr qu'elle le laissera partir. Après tout, il avait 14 ans et malgré tous les événements, une mobilette à sa disposition, elle avait été achetée avant son renvoi. Il ne lui avait pas été offerte en temps et en heure, on sait pourquoi. Mais son oncle avait lâché l'information courant juillet. Son aide à la briqueterie était appréciée et sa bonne conduite avait failli par faire fléchir la mémé. Il gagnait tout doucement en autonomie, certes ses sorties de nuit étaient encore sévèrement contrôlées et les heures autorisées dépassaient rarement 10h30 ou 11h. Parfois il gagnait de haute lutte une permission pour aller au cinéma, mais ce n'était pas quand même à chaque fois. Alors bien sûr la liberté après 68, c'était pas toujours évident. Alors, donc on va continuer un peu cette lecture. Et puis il y avait autre chose au-delà de la peur de mal faire, c'était la peur de faire mal. Angèle ne voulait pas laisser trop de place à ce qui aurait pu se passer aux yeux de ses guides. Et pour la sensiblerie, il fait naître au fond de lui un vague malaise qu'il prenait déjà avec la mémé quand elle plumait et vidait les poulets, lorsqu'elle pelait un lapin dont par ailleurs il se régalait. Après tout, ce n'était que des poissons. Et c'est ce qu'il devait se dire. Ses tentatives furent bien maladroites. Les barbeaux furent ce soir-là plus rapides que lui. Et si Angèle ne rentra pas bredouille cette première fois, c'est grâce à Armin qui lui donna 3 énormes poissons pris par le phare de Roger dans un petit remous au pied d'un rocher. Il lui désigna le plus gros, celui du milieu, et lui fit signe avec son bras armé de bien se camper sur ses jambes et de transpercer sans hésiter, ce qu'il fit. Armand prit alors la fouisse c'est un bâton barbelé, et de ses mains il fit basculer une énorme bête de ses livres dans le bateau où elle veut rejoindre les captures d'Antoine et d'Armand, parce qu'on ne va pas toujours tout seul quand même au bord de l'eau. Après avoir manqué une dizaine de ses congénères, il allait enfin pouvoir rentrer à la maison avec un beau barbeau. Il était temps, quand le découragement le gagnait. passer du rêve à la pratique est un chemin plus long pour les uns que pour les autres. Être parfaitement à l'aise dans des situations demande de l'expérience. Et c'est ce soir-là qu'un long chemin l'attendait. Pris aussi conscience de la richesse de la rivière, jamais il n'avait vu un spectacle aussi saisissant à l'heure où dorment les honnêtes gens. Il découvrait une ambiance, une vie nouvelle. Alors, la rivière la nuit, c'est quand même un peu différent, bien sûr, de la rivière de la journée, surtout que les touristes commencent à arriver. La rivière la nuit, c'est un autre pays. La vie est là, palpable, portée par le bruit de l'eau qui court sur les cailloux et autres, et entre les rochers au milieu d'un rapide. Le son percute, le corps se remplit, rien ni personne pour distraire. L'essence aux aguets pour ne pas glisser, pour ne pas manquer un poisson, le lien qui se tisse n'est plus traversé de pensées parasites. Et c'est une attention maximum, sans exagération, y penser à ce qu'avant peut vivre le capitaine Nemo dans ce Nautilus. À cette époque, Jules Verne accompagnait toujours dans ses rêves d'aventure autour de la rivière et au-delà des berges. Règne la nuit et le silence au milieu du rapide, pas d'autre choix que d'appartenir à la rivière, aucun échappatoire, pas d'autre solution que de devenir prédateur, sinon on n'a rien à faire là. Et oui, c'est bien évident. Cette pêche n'est pas pour les tiètes, tant qu'on est relié à sa condition de mammifère, sauf que celui-ci se doit rapidement du désert de posséder, d'accumuler, il faut alors un brin de sagesse, pour abandonner la partie parce qu'il a assez de nourriture pour le clan, il est tard. On peut rentrer à la maison, laisser le bateau et remonter à pied vers Garojac, portant sur le dos des poissons agonisants dans un sac de jute. Alors, voilà pour la pêche et il va continuer bien sûr un peu plus. Le casque des pavés ne bougeait plus d'un cil, la scène. La scène de nouveau ruisselle d'eau bénite, le vent a dispersé les cendres de Bendit et chacun est rentré dans son automobile. Et pour Angèle, une confirmation, il avait désormais, lui et l'autre, il était bien deux, sa tête et son rêve de liberté de l'autre, moi. Avec son ventre, ses désirs et ses mémoires cadenassées, il a fallu libérer les unes et les autres, désormais les deux vivraient ensemble. Cette nuit-là fut une initiation et encore une fois un constat. Personne ne pouvait rien pour lui, sauf d'une part profonde qu'il devait apprivoiser, qu'il savait mieux que sa tête qu'il était bon de faire et de dire. Morgane n'était pas la femme de sa vie, mais il ne le savait pas et ne pouvait l'apprendre que par ricochet douloureux qui suivait cette nuit du mois d'août. Le fil de plus en plus ténu se remplit, c'était fini. Morgane était parti vers d'autres rives. Et bien voilà, elle lui aussi. Il se laissa glisser pour quelque temps dans le tourment et l'abandon, un espace qu'il connaissait et dans lequel il allait se ressourcer en revenant vers la rivière, mais pas tout à fait comme avant. Armand, lui aussi, avait changé. En quelques années, il avait tout appris, des conséquences dramatiques, des exactions de gravier qui le laissaient dans les bras. La pêche s'occupait toujours, mais la lutte pour préserver de ce qui restait de nature et de beauté de la rivière lui prenait de plus en plus de temps. Autour de la Dordogne, il se passait quelque chose en apparence. Rien ne changeait, les touristes venaient, le camping se remplissait, la routine commençait à parler de pollution, mais à peine, et puis pas partout, et surtout pas trop fort. L'écologie était en gestion et quelques crânes, comme celui d'Angèle ou bien d'Armand, celui-ci devait concilier ses nouvelles données avec des lendemains radieux promis par le parti, mais la conscience environnementale n'avait pas encore franchi les portes des assemblées de gestionnaires. Elle faisait peur parce qu'elle remettait en question un fonctionnement social. Les décideurs décidaient et le corps social se pliait aux directives. Voilà, c'est ainsi, même si la population renaclait parfois, mais sur la rivière, la limite du supportable allait être franchie et les derniers à s'en rendre compte furent ceux qui soutenaient et s'engraissaient au profit du bien commun. La gravière de Sénas a failli racler tout ce qu'elle avait pu sur cette partie de cours d'eau et ne prévoyait pas de remonter plus haut. La configuration du lit de la rivière ne le permettait pas. Elle ne pouvait descendre en aval car le rocher effleurait et elle avait curé tout ce qu'elle pouvait en amont. Les prélèvements faits depuis des années juste au-dessus de la plage de Sénat contribuèrent à vider le lit de gravier et plusieurs kilomètres la drague creusée. Le courant amenait des graviers qui remplissaient le creux et en creusait encore jusqu'à la roche, jusqu'à la lit. Voilà. Ben, je crois que mon temps est terminé. On reprendra la semaine prochaine dans Dordogne Blues de Gilles Ré. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine avec beaucoup de soleil.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.